Jonathan Paquin, bonjour.
Bonjour.
Dans Americanized and the Decline of the US Hegemony, vous partez d'un postulat, l'hégémonie américaine connaît un déclin relatif et vous analysez comment les alliés des Américains gèrent cet état de fait. Il y a donc, Jonathan Paquin, un consensus sur ce déclin relatif de puissance des États-Unis?
Oui, absolument. Alors, dans cet ouvrage que j'ai dirigé avec mon collègue Justin Massy de l'Université du Québec à Montréal, nous faisons le constat qu'il y a un débat sur cette question du déclin, mais tous ne s'entendent pas sur, disons, la rapidité ou l'importance de ce déclin. Alors, d'un côté, on retrouve le clan, si vous me passez l'expression, des déclinistes qui considèrent que le déclin est abrupt et que les États-Unis sont en train de se faire dépasser par des États comme la Chine, par exemple. Et de l'autre côté, il y a ceux que l'on appelle les tenants de la primauté ou les primacistes qui disent que les États-Unis, non, en fait, sont toujours dans une classe à part et que s'il y a effectivement un déclin relatif, c'est un déclin qui est plutôt lent et qui devrait permettre aux États-Unis de demeurer la puissance la plus importante ou la puissance hégémonique au cours du 21e siècle.
Alors, face à ce déclin, comment les alliés des États-Unis se préparent-ils ou bien l'anticipent-ils?
Ce que l'on constate, c'est que les alliés traditionnels des États-Unis craignent véritablement l'abandon de Washington. En fait, la première crainte, c'est que la stratégie globale américaine qui a été établie au lendemain du Second Conflit mondial, que l'on appelle le Deep Engagement, soit définitivement abandonnée par Washington. Et puis on peut ajouter que cette crainte est amplifiée par le fait que les alliés démocratiques des États-Unis n'affichent pas la cohésion nécessaire pour combler le vide laissé par Washington au cours des dernières années dans la gestion des affaires du monde. Et puis on peut ajouter bien sûr la présidence Trump qui a renforcé la perception d'un déclin, et ça c'est partagé par les différents auteurs de notre ouvrage, mais aussi par ceux qui prennent les décisions dans les différents pays étudiés. Donc Trump aurait effectivement accéléré ce déclin alors qu'il a cherché, semble-t-il, à redonner sa grandeur aux États-Unis, ce qui est assez paradoxal. Donc, tous s'entendent sur le fait qu'il y a déclin relatif et que le monde unipolaire est véritablement derrière nous. Ce qui est intéressant, cela dit, c'est qu'il y a des différences d'anticipation entre les alliés du Pacifique d'un côté et les alliés européens de l'autre. Contrairement aux alliés européens qui ont été pris de court par l'arrivée de Trump et par la menace chinoise, ben les alliés du Pacifique, eux, sont aux premières loges de la transition de puissance qui s'opère depuis fort longtemps, pour des raisons géographiques, entre autres, mais aussi, et il faut bien le dire, parce qu'il n'y a pas d'équivalence à l'OTAN en Asie. Donc les pactes de sécurité collective ont été négociés, en fait, à la pièce par Washington, c'est ce qu'on appelle le hub and spoke du côté asiatique, et ça a eu pour effet de réduire le caractère donc multinational de la défense. Alors, du côté du Pacifique, on voit davantage un monde bipolaire en pleine émergence, c'est véritablement un jeu qui est sino-américain. Alors que du côté de l'Europe, c'est la multipolarité qui est davantage envisagée, ne serait-ce que parce qu'on prend au sérieux la menace russe, chose qui ne fait pas véritablement partie de l'équation du côté du Pacifique.
Alors, revenons au Pacifique, justement. Vous étudiez dans votre livre les cas de plusieurs pays, l'Australie, la Thaïlande, les Philippines, la Corée du Sud, le Japon. On voit que c'est sur cette zone, et c'est parce que, justement, ces pays étaient aux premières loges des actions de la Chine, qu'une pratique s'est développée, en anglais, le hedging. Vous pouvez nous dire ce qui découle de cette pratique?
Alors, cette crainte qui est ressentie par les alliés face à l'incertitude grandissante dans le système international a amené donc plusieurs alliés, notamment les alliés du Pacifique, à faire le hedging. Alors le hedging, c'est ce qu'on pourrait traduire en français par la stratégie de la couverture de risque, hein, qui est un terme qui vient du monde de la finance essentiellement. Alors dans un contexte d'incertitude, plusieurs de ces alliés ont choisi d'adopter des politiques qui semblent être contradictoires, qui cherchent intentionnellement en fait l'ambiguïté stratégique. Alors, c'est le cas des Philippines, c'est le cas de la Thaïlande, et c'est le cas aussi de l'Australie, par exemple.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que pour ne pas faire de choix, pour ne pas être du côté du perdant, on parie donc sur les deux, sur les États-Unis et la Chine, dans un jeu d'équilibriste.
Voilà, l'objectif, c'est d'éviter de devoir faire un choix parce qu'on a l'impression que le fait de se ranger du côté de Pékin ou de Washington pourrait nous faire perdre certains acquis ou pourrait nous mettre en danger, en fait, face à l'État qui ne serait pas choisi dans notre stratégie. Donc voilà, on cherche à aménager la chèvre et le chou. On avance doucement sans donner de ligne directrice claire, de telle sorte que la plupart des États qui nous observent se demandent, ben justement, où va cet État et vers quelle grande puissance aurait-il tendance à s'aligner? Et les choses ne sont pas claires. Donc, c'est une ambiguïté volontaire, stratégique, et qui semble fonctionner assez bien pour plusieurs États, notamment de l'ASEAN.
Vous parliez de l'Australie.
Oui, et puis l'Australie aussi. Ce qui est intéressant, évidemment, avec l'Australie, c'est que bon, c'est un allié historique des États-Unis, bien entendu. L'Australie a été de tous les conflits américains depuis le second conflit mondial. Mais Canberra se trouve à l'heure actuelle dans une position assez délicate, dans une position précaire. C'est-à-dire que la Chine est de loin son principal partenaire commercial. 25% des exportations australiennes vont vers la Chine. Il y a un traité de libre-échange avec la Chine depuis 2015, et ça a eu pour effet de renforcer le commerce donc avec l'Australie. Mais en même temps, la Chine semble aujourd'hui être un risque stratégique important pour l'Australie. Alors, l'Australie, dans la dernière décennie, a adopté différentes tendances, différentes postures. Par exemple, à la fin des années 2000, on parlait de risques stratégiques face à la Chine. Et puis, juste avant la signature du traité de libre-échange avec la Chine, on parlait d'un partenaire stratégique que devait être Pékin. Et puis, plus récemment, en fait, en 2020, dans le cadre de la mise à jour de sa politique de défense, l'Australie qualifie véritablement la Chine de risque stratégique important. Alors, l'Australie avance doucement, elle tisse des liens commerciaux avec la Chine, elle cherche en même temps à renforcer ses liens avec Washington, et parallèlement à tout ça, elle développe son autonomie stratégique, elle développe sa dissuasion militaire face à la menace chinoise, elle investit considérablement dans le domaine de la défense. Donc, voilà, elle joue un peu sur les deux côtés, sur les deux tableaux, en espérant faire le plus de gains possible.
Et est-ce que ce double jeu peut se maintenir sur la durée?
Ben, c'est un double jeu qui pourrait se maintenir si les relations entre la Chine et les États-Unis devaient s'améliorer dans les prochaines années, ou si l'Australie devait décider de renoncer ou de réduire sa stratégie de « sharp power ». La Chine, en fait, cherche depuis des années à pénétrer les sphères politiques, médiatiques et intellectuelles australiennes en faisant la promotion d'une image positive de la Chine, en cherchant aussi à étouffer les critiques du régime chinois en Australie. Alors, si cette tendance devait s'atténuer, peut-être que l'Australie pourrait continuer à jouer sur les deux tableaux. Mais si la Chine ne change pas sa stratégie ou sa posture, force est de constater que l'Australie devra être beaucoup plus ferme, et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais les choses pourraient changer encore une fois compte tenu des éléments que je viens d'évoquer.
Toujours en Asie, deux pays font l'objet d'un chapitre, les Philippines et la Thaïlande, qui eux ont aussi reconfiguré leurs alliances.
Oui, voilà. Alors les Philippines, un allié des États-Unis depuis fort longtemps. Ça fait partie donc du giron des États-Unis depuis plus de 100 ans. Mais force est de constater que depuis l'arrivée au pouvoir du président Duterte, on a pris certaines distances face à Washington, dans le but notamment de se rapprocher de Pékin, parce qu'on sait qu'il y a un conflit au sujet d'un certain nombre d'îles en mer de Chine. Et Duterte a considéré que ce n'était pas dans son intérêt que d'envenimer la situation avec la Chine. Il a donc eu des propos assez durs face aux États-Unis. Il a choisi de mettre un terme à certains exercices militaires avec les Américains. Toutefois, il s'est ravisé il y a quelques semaines et il a décidé de remettre de l'avant ses exercices avec les États-Unis. Donc Duterte semble vouloir jongler un peu avec ces deux grandes puissances. Alors, si les Philippines étaient résolument derrière Washington depuis fort longtemps, on assiste maintenant davantage à une stratégie de hedging, pour revenir donc à cette stratégie présentée tout à l'heure. Dans le cas de la Thaïlande, il y a eu le coup d'État, il y a eu une critique de Washington à l'égard donc des pratiques politiques en Thaïlande, ce qui n'a pas plu au gouvernement qui a été issu de ce coup d'État après 2016. Et puis, ça a eu pour effet de refroidir considérablement les relations avec Washington, et la Thaïlande s'est tournée, elle aussi, davantage vers Pékin. Donc, il faudra voir si cette stratégie de hedging pourra perdurer dans le cas de ces deux États.
Alors, vous parliez des Européens tout à l'heure. Parlons des alliés des États-Unis au sein de l'OTAN. L'arrivée de Donald Trump a fait l'effet d'une douche froide pour ces pays, des alliés historiques qui se sont vus infliger parfois le même traitement que les ennemis. Ils ont été qualifiés de parasites. Mais pour autant, vous montrez dans cet ouvrage que les alliés européens ont été lents à saisir les réalités entourant le déclin des États-Unis. Pourquoi ?
Ouais, ben en fait, il y a deux choses. Il y a l'arrivée de Donald Trump, qui est circonstancielle, qui est délimitée dans le temps, alors que la transition de puissance qui s'opère, elle est systémique et elle perdure en fait depuis longtemps. Dès le début des années 2000, c'est quelque chose qu'on sentait. Bon, sous l'administration Bush, évidemment, il y a eu la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak qui ont eu pour effet en quelque sorte de doper la puissance américaine et nous laisser croire en fait que tout se passait à Washington, au moment où la Chine en fait avait des taux de croissance de 10, 12, 14 % et qu'elle était en pleine ascension. Et c'est quelque chose peut-être qui n'a pas été suffisamment pris en compte du côté de l'Europe. Et ce n'est que l'arrivée de Donald Trump qui a été en fait une sorte de catalyseur où on s'est dit, ben voilà, les États-Unis cherchent un repli, les États-Unis ne souhaitent plus jouer le rôle de la puissance hégémonique mondiale, la Chine est en pleine ascension et ça a eu un effet, un accélérateur en fait dans la prise de conscience de plusieurs États européens. Mais ce qui est dommage et ce qui ressort dans notre ouvrage, c'est que face à ce déclin relatif des États-Unis, on pourrait penser, du moins sur papier, que les Européens seraient en mesure de reprendre le flambeau et de favoriser le maintien de l'ordre international libéral. Mais force est de constater que le manque d'unité entre les États membres de l'Union européenne fait en sorte que cette possibilité qui sur papier est intéressante, a très peu de chances en fait de se réaliser. Et donc les Européens sont divisés, ils sont divisés sur plusieurs sujets, vous le savez autant que moi, et donc c'est malheureux, mais si les États-Unis devaient effectivement poursuivre leur déclin, je doute que les alliés démocratiques des États-Unis, donc les Européens, mais on peut ajouter tous les autres aussi dont on a déjà parlé, il y a le Japon, il y a l'Australie, il y a le Canada, puissent permettre à cet ordre international de se pérenniser. Et ça, c'est un triste constat, donc je pense que nous avons intérêt à ce que les Américains puissent reprendre, disons, le leadership international avec les Européens, bien entendu, dans le but de maintenir une stabilité internationale.
Si Joe Biden était élu le 3 novembre, qu'est-ce qui pourrait changer?
Je pense que, d'abord, le ton serait différent. Il y aurait fort probablement de très nombreux discours prononcés par le nouveau président qui auraient pour objectif de panser les plaies, de rappeler l'importance des alliés traditionnels et démocratiques des États-Unis. On peut penser que Biden remettrait de l'avant la participation américaine aux accords de Paris de décembre sur les changements climatiques. Il y a peut-être un certain nombre de choses qui pourront être revues et corrigées. Mais je pense, au fond, que avec ou sans Biden, il y a un retrait relatif des États-Unis et il y a un déclin relatif. Et c'était présent déjà sous Barack Obama. Alors, on a tendance à l'oublier, mais sous Barack Obama, ce déclin était perçu, il était documenté. On l'a vu dans le cas du conflit en Ukraine, où les Européens ont fait, je ne dirais pas le service minimum, mais n'ont pas véritablement pris le leadership de cette crise qui concernait la Russie. La même chose a été observée dans le cas du conflit en Syrie, où à l'été de 2013, l'administration Obama suggérait une intervention si des gaz étaient employés contre des populations civiles, et puis finalement, il n'y a pas eu d'intervention. Donc, on sent une sorte de retrait relatif. Donc, que Trump soit réélu ou que Joe Biden soit élu, je pense qu'il y a véritablement un tournant du côté de la puissance américaine et qui nous renvoie davantage à la distribution de la puissance militaire et économique dans le système international, beaucoup plus qu'à l'élection d'un républicain ou d'un démocrate à Washington.
Merci, Jonathan Paquin.
Merci à vous.